Eh bien voilà, le débat justement qui est ouvert, on va pouvoir vous passer les micros, et Monsieur Girard s'empare du premier.
Je veux souhaiter la bienvenue à Madame Hazan, contrôleur des lieux de privation de liberté, qui n'interviendra que cet après-midi, mais qui a voulu assister à nos débats, et nous sommes sensibles à votre présence. Merci Madame.
Merci. Alors, dans le fond, allons-y, première question. Il y a monsieur qui lève la main, là-bas. On s'autorise 7-10 minutes maxi d'échange. Donc, si vous avez des questions, dépêchez-vous, les posez.
Alors, je me présente, Jean-Pierre Blin, puis retraité. J'ai déjà posé une question hier, mais je vais revenir sur le commentaire que j'ai fait hier. Et je vais peut-être en rajouter d'autres, parce que je suis membre de 3 associations de proches de malades, et la première que je voudrais souligner, avant d'arriver aux soins sans consentement, que j'étais amené à faire pour une amie que je considère comme ma femme, c'est un labyrinthe pour s'y retrouver dans la psychiatrie. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit, il y a un médecin du travail qui m'a dit, dans une association, j'ai 2 enfants schizophrènes, et dont un qui vit en Belgique, sauf le week-end bien sûr, parce que c'est compliqué de faire soigner, bon, et il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience. Alors pour moi, c'était la même chose. J'ai accepté, et je vais vous raconter l'anecdote, ça vaut son pesant d'or, j'ai lu ce qu'il y avait. Bon, je pense qu'il y a un trouble du délire de crèche-mère. Compliqué, j'avais du temps, je suis pré-retraité à l'époque, et bon, alors j'ai regardé à gauche, à droite, comment on soigne ça. Ça, c'est compliqué. Hein. Mais pour la région parisienne, c'est simple. C'est écrit partout, il n'y a que le CPOA qui traite. Donc j'ai emmené cet ami au CPOA. Par malchance, dans la salle d'attente. Alors pourquoi je l'ai emmené et je n'ai pas emmené chez un psychiatre? Ben, elle ne prenait pas ses rendez-vous. Elle n'allait pas à ses rendez-vous, c'était les premiers symptômes de la maladie. Elle n'allait pas chez son médecin, sauf chez le généraliste. Parce que ça faisait longtemps qu'elle prenait des somnifères. Donc c'est très compliqué. Les cas juridiques, c'est encore plus compliqué quand on ne connaît pas le contexte. Alors après, à la CPOA, vous ne pouvez pas deviner ce qui s'est passé. Dans la salle d'attente, il y avait une autre malade qui a voulu... Un autre malade, c'était un homme, qui a voulu lui lire les signes de la main. Et il lui a fait mal aux mains. Alors moi, j'étais d'une grande naïveté. Quand cette amie a voulu sortir, j'ai dit oui, contre l'avis des infirmiers qui étaient présents, parce qu'eux étaient entraînés au comportement des malades atypiques. Et moi, j'ai dit oui. Et malheureusement, 2 mois après, ben, j'ai demandé à une ambulance de venir la chercher pour qu'elle soit hospitalisée sans consentement. Alors, attendez, les petites erreurs, personne ne les voit, bien sûr, dans les statistiques. Mais c'est quand même bien embarrassant. Je peux vous dire, c'est l'erreur de ma vie de l'avoir fait hospitaliser. Et uniquement parce qu'on ne veut pas faire une documentation, une orientation indigne de ce nom. Ici, en région parisienne, on fait des guides pour les soins. C'est pas vrai, ce ne sont pas des guides, ce sont des annuaires. Pour un proche de malade, il ne devine pas toute la complexité du secteur psychiatrique et des soins. Alors évidemment, maintenant, je suis membre de 3 associations, c'était évident. Il fallait passer par les urgences, parce qu'à Paris, c'est mieux qu'en banlieue. La banlieue parisienne, il y a des CHS. Et les CHS, ils n'ont pas vu qu'on est passé au 21e siècle.
Alors,
maintenant, les questions, elles arrivent.
Oui.
Parce que, justement, hier, j'étais absent parce que la malade m'a demandé de passer et je ne pouvais pas écouter la présentation du rapport Lafourcade. Mais il y a 4 500 mains levées par an sur les demandes d'hospitalisation sans consentement. Donc, 2 fois 4 500, ça fait 8% des demandes. Donc, je ne nie pas le besoin des soins sans consentement. Je suis étonné. J'ai croisé une personne dans les associations qui a été hospitalisée à la demande de son mari.
Alors, ça n'est pas une question, ça.
La préparation. Moi, je veux dire que tout est mal préparé dans le monde de la psychiatrie parce qu'il y a plein de cas particuliers. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, la loi, il y a des lacunes. Bon, ça arrive. Mais quand même, quand j'ai écrit à Madame la ministre que pour ma collègue de travail qui avait visiblement le même comportement que mon ami, eh bien, on m'a répondu, monsieur, c'est secret médical. J'ai appelé son médecin traitant qui m'a raccroché au nez. Parce que
on ne va pas prendre tous les cas particuliers parce qu'on ne va pas en sortir.
L'avis des proches
de
malades, elle est oubliée.
Votre question, c'est quoi? C'est que les cas particuliers...
Non, ils sont mal gérés. Alors ça, c'est
mal géré.
J'ai travaillé avec les Anglais. Et les Anglais gèrent mieux les cas particuliers et ils disent, demandez aux Français pour les règles d'orthographe. Ils connaissent bien les exceptions d'orthographe. Mais pour le reste, ils ne savent pas les gérer.
Merci
de votre attention.
Merci. On aura l'occasion de voir dans la journée, notamment les soins sans consentement, enfin, ou plus précisément, comment on les évite, en Angleterre, hein, je crois. Bien, monsieur.
Oui, moi je voulais juste dire que, effectivement, sur la première intervention, il avait été dit qu'il n'y avait pas de contraintes dans le programme de soins. Et par contre, effectivement, sur la deuxième intervention, j'ai entendu une correction à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une contrainte, effectivement, dans le programme de soins. Hein. Il n'y a pas de coercition, et voilà, on entend bien le juriste le préciser. Parce qu'effectivement, le programme de soins, c'est quand même des obligations qui sont quand même imposées d'une certaine façon, même s'il n'y a peut-être plus d'obligation d'exécution. Alors, la question qui vient au-delà de ça, me semble-t-il, effectivement, il n'y a pas de coercition à l'application des programmes de soins, mais est-ce qu'il n'y en a pas une, d'une certaine façon, qui reste non dite comme ça, qui est celle de la réintégration d'hospitalisation, puisque, voilà, ça reste quand même coercitif, d'une certaine façon. Qu'en pensez-vous ?
Voilà. Peu importe, l'un ou l'autre, ou les deux.
Là-dessus, effectivement, il y a une obligation légale et il y a une sanction possible. Il faudra quand même fonder la décision d'hospitalisation complète par les critères de l'hospitalisation complète. Et donc, ça ne suffira pas, à mon sens, de viser le fait que le programme de soins n'a pas été suivi. Il faudra caractériser la nécessité dans laquelle on se trouve de procéder à une hospitalisation complète. C'est simplement dire, si le programme de soins n'est pas suivi, il appartiendra... il faudra recréer les conditions légales de l'hospitalisation complète.
Monsieur Barbe,
c'est ça, je crois. Alors évidemment, la menace peut la menace est une contrainte d'une certaine façon. Bon.
Monsieur le Barbu avec des lunettes, c'est vous, oui.
Bonjour, je voulais rebondir un petit peu sur la première intervention par rapport au rôle de l'avocat. Dans l'audience, je représente moi la directrice d'établissement lors des audiences devant le juge de liberté de la détention. Je me suis aperçu d'une chose majoritaire, c'est que l'avocat, il va permettre en fait de reformuler déjà ce que le patient va plus ou moins arriver à expliquer en fait devant le juge de la liberté de la détention. Et puis on s'aperçoit aussi que parfois il arrive quand même que l'avocat tout simplement s'en remette au juge de la liberté de la détention et ne fasse pas vraiment de l'application stricte impérative et prennent en considération aussi bien la nécessité de soins que ce que va indiquer le patient lors de son audience. Voilà, je voulais surtout apporter cette petite précision par rapport à la question qui était posée.
Monsieur Courtois.
Oui, ce que je voulais souligner, c'est justement la disparité des pratiques. Et on a un certain nombre d'avocats qui interviennent aussi parce qu'ils sont commis d'office. L'engagement des avocats est tout à fait variable, mais la position qu'ils ont par rapport à la pratique est également différente. De la même façon d'ailleurs que du côté des juges des libertés, on a des organisations complètement différentes et des résultats différents. Selon que le juge des libertés est le même à intervenir, c'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment qu'un seul qui rend les décisions, il a une constante dans sa façon de faire, ou quand on a des organisations différentes dans certains tribunaux où les juges changent toutes les semaines. Donc selon le juge sur lequel vous tombez, et la connaissance ou la méconnaissance des principes, le résultat peut être tout à fait différent.
Monsieur, au milieu, oui. Allez-y.
Oui, Vincent Thomas, je dirige un établissement de santé mentale. Je voulais signaler qu'on est aussi face à des demandes nombreuses de soins sans consentement, des décisions, plutôt des arrêtés provisoires pris par les maires, qui sont, on l'oublie trop souvent, les premiers demandeurs, les premiers décideurs avant que les préfets confirment. Et là, on a un énorme effort pédagogique à faire pour que les maires ne continuent pas à faire un usage erroné de la privation de liberté à l'hôpital psychiatrique, pour motif social, pour motif divers. Mais les situations d'abus d'hospitalisation psychiatrique par les maires ne sont pas des exceptions.
Donc il y a une formation à faire à chaque élection, quoi.
Oui.
Avec les nouveaux maires à chaque fois. Monsieur l'autre barbu, mais cette fois-ci plus blanc.
Oui. C'est normal, on n'est pas loin du mois de décembre. À tout point de vue. Ce que je voulais dire... On a parlé des origines de cette loi. Enfin, je pense qu'il y a eu une QPC qui a fait venir la loi aussi. Mais bon.
Je l'ai dit, oui.
Oui.
C'est la décision du 26 novembre, effectivement, voilà. 2010, sur QPC. Voilà. Qui doit d'ailleurs être une QPC de M. Bitton.
Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de programme de soins, reprendre la procédure, etc. Et moi, je pense aux psychiatres. Je suis directeur d'hôpital, psy, qui, bien avant la loi, dans le cadre de ce qu'on appelle le mouvement de désinstitutionnalisation des hôpitaux psy, ont voulu croire qu'une situation, quelle qu'elle soit, mais eux, ils travaillent en psychiatrie, enfin, psychiatrie en santé mentale, n'est jamais définitive. Que la question de se mettre en danger, que la question de la dangerosité, ce n'est pas quelque chose qui peut s'apprécier pour l'éternité. Donc, les pratiques médicales, les pratiques de soins, parce qu'il y a des équipes, ont fait que, petit à petit, et d'une manière plus en plus importante, dans les années 70-80, et encore aujourd'hui, dans un autre contexte, il y a des gens, on les soigne, et quand on considère que le soin a été fait et qu'un certain nombre de questions ont été réglées, ben les gens y sortent. Et toutes ces pratiques au cours des 30 dernières années ont quelque part eu favorisé l'apparition de cette loi qui, malgré tout, par rapport à la loi de 90, est quand même un progrès. Voilà ce que je voulais dire.
Merci.
La loi, elle a pu apparaître pas toujours bien vécu par les psychiatres, mais quelque part, ils en sont à l'origine. Ils en sont, de par leur pratique de secteur, ils en sont à l'origine. Il faut le reconnaître.
Merci pour votre analyse. Dernière question, parce que le temps passe. Et... Attendez, alors il y a monsieur Devant qui essaye depuis une éternité là de poser la question, donc on va lui laisser la parole. Et puis peut-être vous aussi, c'est ça, et après c'est terminé. Hein.
Yves Buzyn, je suis directeur d'hôpital. Moi, je vais avoir une question assez directe. Je conçois tout à fait les évolutions juridiques qu'a expliqué Denis Robillard, notamment dans le contexte du droit européen, des évolutions. Son interprétation et sa clarification très nette sur le fait que ça soit une décision et non pas une prescription est très intéressante. Par contre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir faire évoluer quand même, à un moment donné, la capacité ou quels sont les acteurs détenteurs d'une mesure privative de liberté, puisqu'il reste quand même dans la loi les directeurs d'un côté, ils ne sont pas magistrats, ils ne sont pas non plus détenteurs d'une autorité de police générale comme peut l'être le préfet. Ils ont une autorité statutaire d'autorité de police à l'intérieur de leur établissement. On leur donne une autorité privative d'un droit fondamental de liberté qui est une résurgence historique. Doit-on rester dans cette logique-là ? Et l'autre problématique, quand la décision des médecins privatifs de liberté pour l'isolation ou l'isolement s'exerce, l'ensemble des personnels qui vont agir pour le compte et subséquemment sur la décision des médecins vont créer des problèmes dans les établissements, puisqu'on va avoir des professionnels de santé dont la mission première est quelque part le soin, donc dans la logique thérapeutique de la prescription ou pas, comme l'expriment nos médecins, hein, à certains moments. Et là, on va avoir une partie du personnel qui va devoir diviser sa culture entre une culture de soins et une culture d'auxiliaire de sûreté, dont aujourd'hui, cette problématique va être difficile à mixer culturellement.
Merci.
Doit-on rester sur le statut actuel ou doit-on évoluer ?
Maître Robillard.
Attendez, moi, je ne réponds pas comme avocat là-dessus. Moi, est-ce que ça doit évoluer ? Moi, je pense que ça continuera d'évoluer, puisqu'on voit bien que notre pays est relativement à l'écart d'une évolution européenne qui confie au juge ses décisions. Dans une décision a priori au tout début de l'hospitalisation. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que le juge intervient a posteriori. Il intervient parfois a posteriori quand il est saisi de façon spécifique, puisque à tout moment, on peut le saisir d'une mesure en cours d'exécution. Y compris avant l'expiration du délai de 12 jours et avant qu'il ait été saisi par le directeur de l'hôpital. Bon. Mais quand même, je rappelle moi le texte de l'article L3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés, etc. Donc ne peut se poursuivre. C'est donc un contrôle a priori, à ce moment-là, quand on est dans le contrôle systématique et celui qui intervient ensuite régulièrement.
Bon. Pascal Mariotti. Bon.
En fait, Yves Buzyn, ça a posé la question que je voulais poser, parce qu'effectivement, on ne peut pas être uniquement commentateur du droit ou d'une situation, notre problématique, même si ça baisse à certains endroits. De toute façon, partout, les taux sont trop élevés. Donc, un, il faut qu'on trouve des moyens de les faire baisser. Ils ne sont évidemment pas que juridiques. On le sait bien, mais on ne va pas en discuter tout de suite. Il reviendra sans doute à certains moments dans la journée. Ça, c'est notre première préoccupation. Deuxièmement, et j'ai l'occasion d'en parler récemment avec Denis Robillard, la préoccupation, c'est que là où ça monte, on a un effet de ciseau entre ce que redevient l'hôpital, donc plutôt un lieu d'enfermement, c'est peut-être un peu excessif dit comme ça, mais tout au moins où la proportion des patients en soins sans consentement tend à augmenter régulièrement en comparaison de ceux qui sont en soins libres, à l'inverse de ce qui se passe en ambulatoire. C'est un phénomène qui, pour nous, est extrêmement difficile à gérer, qui est extrêmement contradictoire. Et effectivement, la question qui s'en suivait, c'était celle à laquelle vous venez de répondre. Alors moi, je vais répondre aussi par une affirmation, c'est qu'il faut rappeler qu'en 2013, la position de l'ADESME, on l'a peut-être pas beaucoup mis en avant, et je voudrais la rappeler, c'est que les directeurs, indépendamment de la compétence préfectorale et de la problématique qu'il y a derrière des pratiques des élus locaux, la position de l'ADESME, c'était de ne pas défendre la compétence d'admission du directeur dans les cas de placement en soins sans consentement, mais de demander une compétence pleine et entière du juge et immédiate qui butait. On en avait discuté, y compris sur des questions de ressources de la justice et autres. Mais la position était bien celle-là, de confier une compétence immédiate, à partir de là complètement a priori, au juge, et si possible dans les 24 à 48 heures, de façon que le régime soit pleinement un régime de liberté publique.
Allez, encore deux témoignages, mais rapides, hein, très rapides. Monsieur ici et ici, voilà. Allons-y.
Je me présente, je suis infirmier-chercheur. Ça serait plus une question pour M. Denis Robillard. Bon. C'est par rapport à l'inflexion, effectivement, de la loi sur isolement et contention. Que la loi aille du côté d'une nécessaire traçabilité de ces mesures, on en comprend évidemment les enjeux, mais dans la formulation de la loi, notamment devant la très grande variabilité de recours à ces pratiques, devant la faiblesse de la preuve en termes d'efficacité thérapeutique...
Est-ce que vous pouvez parler plus fort, on a du mal à vous entendre.
...notamment des questions de contention. Pourquoi le législateur n'a pas accès à l'énoncé de la loi du côté d'un moindre recours? La question du dernier recours est une question, à mon sens, ambiguë, parce que je pense que la plupart des pratiques, des équipes de soins, sont dans une logique de dernier recours et que la question est plutôt le rétrécissement entre le premier recours et le dernier recours qui pose la question de l'anticipation des situations, où est l'axe, à mon avis, central qui explique en grande partie la variabilité du recours à ces mesures.
Non, je ne suis pas du tout d'accord sur le fin. Enfin, je vais répondre à votre intervention et à la vôtre aussi tout à l'heure, hein, quand vous disiez, mais avoir légiféré sur la contention, c'est aussi l'avoir légalisé. Donc il y a une décision de principe et on s'est vraiment posé la question de savoir s'il fallait légiférer sur cette question. Simplement, nous, ne pas légiférer, c'était être un ponce-pilate, puisque de fait, il est recouru, il n'a pas besoin du législateur pour recourir. Enfin, en tout cas, dans les hôpitaux, on n'a pas attendu le législateur pour recourir à la contention et à l'isolement. Ça, c'est clair. Bon. Et que par conséquent, si on voulait intervenir, mais il fallait qu'on utilise la voie légale. Bon. Après, on l'a fait quand même, on a affirmé un principe. Le principe du dernier recours, on peut toujours choisir d'autres termes. Mais le principe du dernier que c'était une pratique de dernier recours a été clairement affirmé. Et les raisons pour lesquelles il pouvait y être recouru ont également été définies. Bon. Donc je pense que le souhait du législateur qu'il soit moins recouru aux pratiques d'isolement et de contention, a été très fermement affiché. Et je pense d'ailleurs, c'est ce que nous dit l'ordonnance de Versailles, que des conséquences juridiques peuvent en être tirées. Bon. Et il n'y a pas que ça. Parce que dans le dispositif de l'article 72, Il y a la traçabilité, mais il y a aussi l'idée du rapport annuel au conseil de surveillance et à la commission des usagers. Ce rapport, il porte sur le recours à l'isolement, c'est-à-dire que la pratique, elle devrait être documentée, elle devrait être décrite. Et également, on oriente ce rapport sur quels sont les moyens employés pour la réduire le plus possible. Bon. Donc quand même, la direction, elle me paraît clairement fixée, y compris dans ses aspects pratiques, c'est-à-dire qu'annuellement, on devra regarder ce qu'on fait, avoir un état, et les moyens qu'on met en œuvre pour réduire le recours à la contention et l'isolement. Bon, voilà hein, ce qu'il y a aujourd'hui dans la loi, et il me semble que votre souhait est exaucé.
Merci. François Courteau.
Alors, juste pour lever toute éventuelle ambiguïté, si nous nous félicitons au sein de l'ADESM de la rédaction de l'article 72, ce n'est pas parce qu'il permettrait de multiplier les contentions et les isolements parce qu'elles auraient une existence légale, mais c'est bien justement parce que ça nous permet de fixer des objectifs pour les réduire.
Bien, merci à tous les deux. On va vous applaudir une nouvelle fois.